Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et passionnée de sport. Au cours des dernières années, la montée en popularité des médias sociaux a accéléré le partage d'informations contradictoires en nutrition. Mon objectif avec ce podcast, c'est tout simplement de te présenter les nombreuses nuances au travers des points de vue divergents de plusieurs experts. Ensuite, ce sera à toi de te faire une tête en fonction de tes valeurs, ton vécu et bien sûr, des données scientifiques actuelles. Bonne écoute! By the way, si t'aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au van-nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com. Allô! Aujourd'hui, je vous ai préparé un podcast qui est vraiment différent de l'habitude. En fait, c'est mon premier podcast solo qui risque d'être peut-être un petit peu plus long. J'avais fait un mini-sode là, d'à peu près 7-8 minutes que j'ai présenté plus au début de la série de podcasts. Aujourd'hui, je me lance vraiment vers un épisode plus complet, vraiment complètement différent de l'habitude. Puis là, j'espère que j'aurai pas besoin de me reprendre comme 90 fois. Je suis sûre que je vais toujours être insatisfaite comme du résultat, mais j'espère pouvoir le faire en un one-shot deal ou presque. On est samedi matin, il fait super beau dehors, assurément très froid, mais j'espère quand même pouvoir aller jouer dehors tout à l'heure. Donc, je vous jase un peu, puis écoute, ça sera pas parfait, mais c'est une première expérience, fait que soyez indulgents. En fait, ce qui a motivé mon épisode d'aujourd'hui, c'est l'écoute d'un épisode de podcast de Cynthia Marcotte, que d'ailleurs, je vais vous inviter vraiment, là, sincèrement, à aller écouter parce que c'est riche en contenu. C'est vraiment, je suis sûre à 100% que j'ai énormément de personnes, soit qui écoutent le podcast ou même des clients, qui vont écouter cet épisode-là puis qui vont se reconnaître. En fait, je mets en contexte, là, Cynthia, dernièrement, elle a enregistré un épisode de podcast avec une jeune femme qui s'appelle Natacha, qui nous partage son expérience avec les différentes diètes dont elle a été végane. Ben, végane, je veux dire, appelons ça si on veut pas une diète, là, peu importe, c'est pas nécessairement une diète de perte de poids, là, on se comprend. Elle a fait Weight Watcher à quelques reprises, 3 fois, si je ne m'abuse. Finalement, tu sais, une jeune femme qui est pas si différente des autres, qui a eu un gros struggle pour son poids, qui est en surpoids quand elle était jeune, qui a évolué en fonction de ce que le marché lui offrait, puis de ce qui collait à son mindset à ce moment-là, puis qui en a eu des répercussions psychologiques au fil du temps. Donc, ça l'a fini par se transposer, en trouble alimentaire. Ben, comme elle l'a dit elle-même, en fait, elle n'a pas reçu de diagnostic officiel de trouble alimentaire, là, mais à la fin de cette série de diètes-là, finalement, elle était rendue vraiment à comme sauter des repas, puis à elle a même fait des jours sans s'alimenter. Elle a fait une tentative aussi avec des laxatifs. Donc, tu sais, on comprend que si c'est pas un vrai trouble alimentaire diagnostiqué, là, ça flirte de très près avec ça. Natacha est comme... J'ai vraiment eu un coup de cœur parce que c'est une femme qui est comme... C'est une fille qui parle beaucoup, là, vous allez voir. Cynthia est comme, oui, OK. Elle écoute, là. La fille, elle donne le show. Puis elle le fait très bien parce qu'elle est très authentique. Puis, en fait, elle met des mots sur ce qu'on sait que plusieurs personnes qui suivent des diètes vivent, mais souvent c'est pas verbalisé de cette façon-là. Je pense aussi que en fait le fait qu'elle vulgarise aujourd'hui avec du recul, elle a beaucoup cheminé. Donc elle est capable de se transposer dans cette période-là. Puis aujourd'hui, elle est en mesure de dire que tu sais, à ce moment-là, peut-être qu'elle le faisait pas pour les bonnes raisons, mais tu sais, dans le day-to-day, lorsqu'elle était dedans, si on recule là, il y a quelques années, assurément, ça se serait pas passé comme ça. Je pense pas que même elle le voyait de cette manière-là. Donc, dans un premier temps, en fait, je veux revenir sur certains éléments qui ont été mentionnés dans l'épisode de Cynthia et Natacha, Puis ensuite, j'ai comme sorti des... à chaque fois que j'écoutais, il y a des phrases qu'elle disait que je me disais, « Ah, oh, mon Dieu, tu sais, ça, faut que j'en parle. Puis ça, faut que j'en parle. » Fait que je me suis fait des petites notes, des petits sujets que je veux approfondir comme ça. Fait que finalement, ça m'a vraiment inspirée. Puis tu sais, parce que moi, quand j'écoutais ça, là, j'étais là, « My God, tu sais, j'ai tellement de clients qui me parlent justement des diètes qu'ils ont faites, puis de Weight Watchers, notamment, là, qui est super populaire. » Puis c'est sûr qu'en consultation, on en jase, mais si on est une heure ensemble, on va pas en jaser en détail pendant une heure. Fait que là, elle a vraiment approfondi le sujet de manière fort intéressante. Donc, pour débuter, justement, tu sais, je voulais parler un peu du fait que... le contrôle qu'on pense avoir par rapport à notre poids, puis la pression qu'on peut se mettre, alors que c'est un contrôle qui n'est pas réel. Tu sais, dans l'épisode, justement, Natacha, ce qu'elle rapporte, là, c'est... Puis là, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Là, tu sais, elle disait justement qu'elle allait à Weight Watchers, qu'il y avait des pesées. Puis là, à ce moment-là, au niveau des pesées, ben, tu sais, elle disait, ben, premièrement, qu'elle était très stressée, qu'elle portait toujours le même linge, qu'elle enlevait ses bagues, tu sais, puis qu'elle attendait à la dernière minute pour aller faire pipi, tu sais, pour être sûre de peser comme le moins possible. Puis là, en fil, elle attendait pour la peser. Puis là, évidemment, bon, ben l'inquiétude monte. Tu sais, si j'ai pris une livre, mettons, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu me faire prendre une livre? Est-ce que c'est le gâteau au chocolat que j'ai mangé la semaine dernière? Est-ce que, ah, tu sais, j'étais allée en vacances, ah, j'ai pris du vin, j'aurais pas dû? Puis là, tu sais, toute la culpabilité puis les remords reviennent à la surface alors que tu fais la file puis que t'as encore aucune idée de ce que va te dire la balance. Fait que là-dessus... je voulais faire un petit bout de chemin, dans le fond. Je voulais surtout te dire que, puis encore aujourd'hui, j'entends ça vraiment souvent en consultation. Fait que moi, c'était comme, quand je l'écoutais, c'était des flashs qui m'allumaient ici et là. Tu sais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez beaucoup moins de contrôle que vous pensez en avoir sur votre poids. Puis là, je vous parle comme si vous étiez dans cette situation-là, là, mais c'est peut-être probablement pas le cas, peu importe. Tu sais, on n'a pas tant contrôle que ça. Oui, on a du contrôle dans le sens que c'est sûr que les aliments qu'on mange, les habitudes de vie qu'on va avoir, la sédentarité versus un mode de vie actif, globalement, oui, on a un contrôle, là, mais livre après livre, aliment après aliment, tu sais, rappelez-vous que une livre, là, c'est 3500 calories. Là. Fait que, tu sais, que tu manges un morceau de gâteau le samedi soir, que tu prennes une coupe de vin, c'est pas ça qui va te faire prendre une livre, c'est pas ça, c'est pas un aliment, c'est pas un moment qui va avoir un impact aussi direct sur ton poids. De toute façon, il y a mille et une choses qui vont réguler le poids, dont justement ton histoire personnelle, est-ce que tu as fait beaucoup de régime, est-ce que tu es stressé, le système hormonal, le niveau d'hydratation. Tu sais, si tu manges plus de carbs, là, ça, les gens me le disent souvent, là, je mange des glucides, j'en fais tout de suite. Ben, chaque gramme de glucides est stocké avec 3 grammes d'eau. Fait que t'es juste hydraté. Disons ça comme ça, bien simplement, mais tu sais, décrocher de autant de précision, il y a, tu sais, ça n'a pas sa place en nutrition, premièrement, puis ça arrive souvent qu'il y a des données aberrantes de toute façon, là, puis le poids fluctue naturellement d'une journée à l'autre, fait que ça vaut pas la peine non plus, tu sais, de se peser sur une manière, trop souvent, là, finalement. Moi, je me souviens même d'avoir fait le test à un moment donné. En fin de soirée, je me suis pesée, puis c'est le genre de soirée que tu dis j'ai trop mangé. Puis moi, je bois vraiment beaucoup d'eau en plus dans vie, là, fait que je me suis pesée le soir, j'avais un poids X. Je suis allée faire pipi une fois pendant la nuit, puis le lendemain matin au réveil, je me suis pesée, puis il y avait 6 livres de différence dans le fond, là, fait que c'est, tu sais, faut pas se fier à ça, là, c'est trop arbitraire, c'est trop comme, fait que, tu sais, puis je le sais, là, des fois, que justement, il y a des gens qui me disent, ah, ouais, non, c'est sûr, tu sais, là, samedi, c'est vrai que, justement, j'ai comme mangé de la fondue, fait que peut-être que cette semaine, j'aurais pas perdu, là, non, là, pour vrai, là, ça a pas sa place dans des pensées qui sont saines et un mindset qui est positif par rapport à ses habitudes de vie. Puis je le sais aussi que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais la première chose d'entrée de jeu, ben, c'est d'en parler. Fait que je vous en parle. ensuite, justement, elle disait, bon, tu sais, que sur place, ils vendaient plein de produits qui contenaient peu de points parce que Weight Watchers, c'est un système qui fonctionne avec les points souvent, là, si jamais vous le connaissez pas, dans le fond, c'est que Il y a certains aliments qui contiennent, mettons, les plus lean, pour dire un mot, là, qui contiennent comme moins de points. Fait que certains aliments, si tu les manges, mettons, je pense qu'elle disait notamment que le yogourt grec nature, comme il y avait presque pas de points, fait que ça, tu peux en manger beaucoup. Une poitrine de poulet, justement, comme cuite au four, là, avec rien, pas de goût, sans saveur, pas de fun. Ça avait presque pas de points. Puis c'est ça. Puis il y a d'autres aliments qui seraient plus denses en énergie qui, eux, auraient plus de points. Fait que finalement, tu sais, toi, tu as un nombre de points qui t'est alloué. Puis pour perdre du poids, il faut que tu rentres dans ton nombre de points. Fait que, tu sais, sur place, ils vendaient des aliments, justement, qui contenaient très peu de points. Donc, tu sais, c'est intéressant pour la personne qui suit le régime, justement, de se dire « Hey, crème, ça, j'ai le droit d'en manger beaucoup. » Puis souvent, ben c'était des produits qui contenaient, tu sais, on sait, là, les produits hypocaloriques, c'est des produits souvent qui contiennent des édulcorants, qui sont ultra transformés. Puis ça aussi, j'avais envie d'en parler parce que, tu sais, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est qu'une calorie, ça nourrit votre corps. Une calorie, ça ne fait pas engraisser. Donc, si tu cumules les aliments hypocaloriques et que tu te nourris constamment d'aliments qui ont peu de calories, en bout de ligne, t'as juste comme tu ne réponds pas aux besoins de ton corps qui est d'être alimenté. Puis tu sais, des aliments ultra transformés, des édulcorants, ben souvent c'est pas nécessairement intéressant pour ta santé non plus. Fait que tu sais, à quel point justement pour le poids, on va se tourner vers des aliments qui n'ont pas d'intérêt pour notre santé, puis souvent qui vont être aussi vraiment moins intéressants en termes de feeling, en termes de saveur. Tu sais, c'est du semi-réconfortant, là, qu'on aurait voulu manger du chocolat, mais on mange comme un faux chocolat. Fait que finalement, on n'est même pas satisfait en termes de plaisir. Puis tu sais, un exemple que je donne souvent en consultation par rapport à ça, c'est, mettons justement les yogourts. Tu sais, les petits yogourts, justement, comme sans gras, presque pas de sucre, 0% à comme 30 calories, souvent, ça va être beaucoup plus transformé qu'un yogourt qui contiendrait un petit peu plus de gras. Fait que moi, j'aime nettement mieux que tu prennes un aliment qui est plus calorique. Mettons, un yogourt grec, justement, qui est très protéiné, qui est rassasiant. Il est plus calorique, mais il est tellement plus nourrissant versus s'enfiler un petit yogourt comme à 30 calories. Mais, tu sais, honnêtement, il t'a rien donné, ton yogourt à 30 calories. Là, moi, je pourrais en manger 8 pour me sentir un peu satisfaite. Fait que, tu sais, éviter les produits hypocaloriques qui sont souvent suggérés dans ce genre de diète-là. Ensuite, qu'est-ce qui avait attiré mon attention là-dedans? Là, je me suis faite comme une petite liste par rapport à ça. Ouais, bon, la fameuse pesée, justement, devant les autres. Donc, elle disait que les autres ne voyaient pas ton poids. Évidemment, là, ça aurait été vraiment de l'abus si les autres auraient vu comme ta pesée. Mais par contre, ce qu'elle disait, c'est que tu dois... Tu sais, c'est sûr que, mettons, tu as une pesée par semaine, ça va générer une émotion. Parce que t'as mis beaucoup d'énergie là-dedans, tu te mets de la pression, tu sais, c'est comme, ça prend beaucoup de place dans ta vie quand t'es dans un processus comme ça de perte de poids, tu sais, aussi encadré, disons ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'au moment où tu vas être pesé, ça va générer une émotion. Puis cette émotion-là, ben tu la vis en public, tu la vis devant les autres. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça vraiment un peu ordinaire, pour vrai. Puis je sais que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup par le passé, de valoriser justement la perte de poids puis de peser les gens devant les autres. Ou encore cette semaine, j'avais une cliente qui me disait que tu sais, au primaire, justement, il te pesait comme dans les cours d'éducation physique puis qu'elle criait ton poids à l'infirmière. Puis tu sais, pour elle, qui était une jeune femme un petit peu plus grande et plus carrée que les autres, c'était toujours un moment super gênant. Puis encore aujourd'hui, elle a une peur bleue des balances, tu sais, fait que... c'est ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment désolant. Puis justement, elle disait aussi qu'il remettait comme des breloques, un peu comme dans les AA, quand tu avais atteint une certaine perte de poids. Fait que, mettons, si tu avais atteint 5% de perte de ta masse totale, ben là, tu avais une breloque. Puis là, plus que tu progressais finalement dans ta perte de poids, plus que tu avais de breloques. Mais comme elle disait, c'était comme, tu sais, imagine, mettons, tu te ramasses à avoir comme une breloque qui est full valorisée. Là, je sais pas, mettons, t'as perdu comme 25% de ta masse grasse, t'as telle breloque. Mais après, comme si tu le reprends, ce poids-là, comment tu te sens quand tu regardes ta breloque, puis tu te dis, aïe, aïe, j'avais réussi, puis finalement, ben aujourd'hui, j'en suis plus là, tu sais. Fait que c'est tellement comme, quand on dit que l'alimentation c'est psychologique, c'est que ça va jouer sur tellement d'autres aspects comme ton niveau de compétence, ton niveau d'estime de soi, tu te sens pas fier, t'as l'impression d'avoir échoué, mais s'il y a bien une chose dans la vie pour laquelle, tu sais, les efforts n'égalent pas nécessairement les résultats, c'est bien la perte de poids. Parce que j'en ai vu en tas du monde faire des efforts, puis avoir de la difficulté à avoir des résultats, fait que c'est pas parce que t'es pas bon, c'est pas parce que tu fais pas les choses comme il faut, c'est juste que c'est plus compliqué que ça. Maintenant, l'autre chose que je voulais parler, en passant, ça se peut qu'il y ait des coupures dans le podcast parce que j'ai décidé de faire ça segment par segment. Donc, quand je vais changer de thématique, je vais restarter un enregistrement. Fait que, voilà, j'ai changé de thématique, je repars un enregistrement. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est quand elle disait qu'elle avait commencé à être végane. Hein. À l'époque, justement, elle le faisait pour... elle se convainquait, finalement, qu'elle le faisait pour des raisons de santé. Puis, c'est ce qu'elle disait à son entourage aussi, là, elle avait... en fond, Natacha, elle a une maladie là, qui m'échappe. J'essaie de me rappeler c'était quoi exactement. Faudrait que je retourne dans le podcast. Mais c'est vrai qu'en modulant son alimentation, elle avait vu des bienfaits là, sur les symptômes liés à la maladie. Fait que ça l'encourageait. Puis aussi, elle avait vu sa silhouette se modifier. Donc, au départ, elle avait opté pour une alimentation paléo. Finalement, elle s'est intéressée au véganisme, puis ça l'a comme convaincue de devenir végane. Ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, c'est que elle parle du fait que elle se convainquait, puis elle disait aux autres qu'elle le faisait pour des raisons de santé, alors que quand elle se regarde aujourd'hui avec du recul, elle dit, dans le fond, je le faisais pour perdre du poids. Parce qu'elle dit, les filles que je suivais, qui étaient végétaliennes, c'est pas des filles, tu sais, c'était pas des loonies, là, c'était pas du monde qui avait du plaisir en cuisine, qui prônait comme la diversité corporelle, l'alimentation intuitive, c'était vraiment plus comme des fit girls super minces, qui mangeaient hyper healthy, fait que, tu sais, elle, dans le fond, elle aspirait à ça, c'était de l'envie, puis ça aussi, elle dit à un moment donné qu'elle carburerait beaucoup à deux choses, dont l'envie et la culpabilité, puis ça, c'est dangereux, c'est un terrain qui est ultra glissant. Fait que souvent, en fait, justement, j'ai des discussions avec des gens qui me rapportent, ils ont arrêté, par exemple, le gluten pour une raison X, ou ils ont arrêté, justement, sont devenus végétaliens pour une raison X, ou la raison émise est rarement la perte de poids. Sauf que finalement, quand tu grattes, quand tu continues de jaser avec eux, tu te rends compte que c'est souvent ça l'objectif. Non, pas souvent, là, surtout dans le cas du véganisme, là, c'est comme un cas à part parce qu'on s'entend que tout ce qui est éthique et même environnemental par rapport à cette alimentation-là, là, mais bien souvent, quand il y a des exclusions, en fait, on s'imagine que c'est pour la santé ou on fait des changements pour la santé, mais tu sais, des fois, ça vaut la peine de faire une petite introspection puis de se dire, je le fais-tu vraiment pour la santé ou je le fais comme vraiment pour la perte de poids? Puis souvent, c'est quelque chose que les personnes, tu sais, ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Puis moi, justement, dans mes évaluations nutritionnelles, tu sais, souvent, je demande d'entrée de jeu la raison de consultation. donc, dans bien des cas, la raison de consultation est modifier les habitudes de vie, avoir une meilleure santé. Puis finalement, un peu plus tard dans le questionnaire, je leur demande leur poids actuel. Puis finalement, je demande si c'est le poids souhaité. Puis là, ça part. Là, ça part sur l'objectif de perdre de poids. Fait que, tu sais, c'est correct. Puis en même temps, là, je veux dire, on n'est pas là pour juger. Puis je suis bien consciente que c'est dur de se détacher de tout ça. Mais, tu sais, des fois, juste de se poser les questions, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Pourquoi je le fais réellement? Et d'essayer d'approfondir ça un petit peu plus. Puis d'ailleurs, il y a un exercice que j'aime bien donner à mes clients parfois. C'est l'exercice des 7 pourquoi. C'est-à-dire, mettons, tu dis justement, pourquoi je m'embarque dans cette démarche là aujourd'hui en nutrition? Peut-être que ta première réponse va être, mettons, je veux améliorer mes habitudes de vie. OK, pourquoi? Pour être plus en santé. OK, mais pourquoi? Parce que si je suis plus en santé, je vais être plus mince. OK, pourquoi tu vas être plus mince? Fait que finalement, tu te poses la question pourquoi 7 fois sur tes réponses, ça te permet d'approfondir un peu ton vrai de vrai why qui vient du cœur. Puis des fois, ça nous remet des évidences en pleine face. Est-ce que ça change le processus? Pas nécessairement, mais c'est des belles prises de conscience qui souvent permettent de cheminer. L'autre chose dont je voulais parler aussi par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, justement, elle en vient qu'à parler du fait que, justement, son processus a un peu dégénéré, puis elle s'est ramassée dans un trouble alimentaire, là, disons ça comme ça, c'était rendu excessif, elle sautait des repas, puis tout. Puis, elle parle un peu, justement, de le discours interne qu'elle avait. Donc, tu sais, elle se disait, justement, bon, aujourd'hui, je ne mangerai pas, tu sais, je vais être capable. Puis, comme elle vivait un sentiment d'échec si elle n'y arrivait pas, alors qu'elle vivait comme de la fierté, un sentiment d'accomplissement si elle arrivait à ne pas manger. Fait que ça m'amène à vous suggérer un deuxième exercice, tant qu'à être là-dedans, que j'aime bien aussi recommander à mes clients. C'est l'exercice que j'appelle la triade comportementale. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on réalise qu'on a peut-être un comportement qui est problématique ou qui est non souhaitable ou qu'on aimerait modifier en lien avec nos habitudes alimentaires, bien souvent, en fait, notre réaction, ça va être d'essayer de chasser le comportement alimentaire. Je m'explique. Mettons, vous avez tendance à grignoter sans faim le soir ou comme elle, mettons, elle avait tendance à vouloir sauter des repas. Ou je sais pas, moi, vous avez tendance la fin de semaine à trop manger de restauration, trop boire d'alcool, bref, quelque chose qui vous achale, que vous aimeriez modifier. Donc là, la nature humaine étant « Hey là, j'arrête ça, je veux plus faire ces comportements-là, et c'est pas correct » puis tout, fait qu'on se tape sur la tête si on a le comportement en tant que tel. Puis, on focus vraiment sur le fait d'arrêter le comportement. Sauf que souvent, ce qui peut être bénéfique, c'est de revenir un peu finalement en amont à ce comportement-là. Donc, comment tu en viens à avoir ce comportement-là alors que ce n'est pas quelque chose que tu désires? Donc, la triade comportementale, c'est que chaque comportement débute par, au départ, c'est une pensée. La pensée va se transposer en émotion. Puis l'émotion, elle, va se transposer en comportement. Donc, par exemple, dans le cas de Natacha, elle se disait, bon, une pensée. Caroline, je perds plus de poids. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que je mange. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment une bonne idée. Aujourd'hui, je ne mange pas. Émotion, motivation. Là, elle se sent crinquée, là, puis l'émotion aussi est fragile. Fait que là, c'est comme, si je réussis, accomplissement. Si j'échoue, sentiment d'échec, je me sens dépressive, puis tout. Donc, comportement, essayer de ne pas manger toute la journée. Fait que c'est comme une boucle. Donc, souvent, il faut en revenir finalement à la base, c'est-à-dire aux pensées qu'on va avoir. Fait que comment que tu te parles dans ta tête? Tu sais, c'est quoi le discours interne que tu as? Quand tu te retrouves toute seule là, avec tes struggles par rapport à l'alimentation, là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis genre, ah, de toute façon, je suis pas bonne, j'y arriverai pas, je perds pas de poids? Donc là, ça génère une émotion. Émotion, t'sais, sentiment d'échec. Je suis dépressive, je suis pas fière, je me sens pas bonne. Donc, comportement, je mange mes émotions. T'sais, fait que, bref, ça m'amenait à vouloir pousser plus loin un peu ce raisonnement-là qui est comment tu te parles, toi? Puis aujourd'hui, en fait, c'est probablement ça. T'sais, aujourd'hui, Natacha a l'air d'aller vraiment mieux. Donc, j'ai l'impression qu'elle a modulé tout ce qui est de la manière dont elle se parle, finalement, puis son discours interne, elle a beaucoup cheminé. Puis pour en revenir un petit peu sur le sujet initial de ce segment-là, là, qui était un peu comme qu'elle avait passé par le véganisme, puis on, t'sais, finalement, avec du recul, elle réalise que c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ben aujourd'hui, elle a réintégré les protéines animales, puis, tu sais, Cynthia puis Natacha, ils ont eu une discussion par rapport au fait, justement, que ben, peu importe la manière dont tu t'alimentes, est-ce que tu es obligé d'y apposer une étiquette? Tu sais, l'étiquette, finalement, ça te fait juste te mettre une pression pour respecter des règles. Puis les règles alimentaires, ça, souvent, ça nuit parce que ça te met dans un cadre. Donc, est-ce que tu as besoin de dire comme « je suis végétarienne, je suis vegan, je suis comme, je suis paléo » Puis souvent, c'est ça l'affaire avec les diètes, c'est que le fait d'avoir une étiquette sur la manière dont tu t'alimentes, ça vient avec des règles alimentaires. Les règles alimentaires, elles, viennent avec certaines restrictions. Puis les restrictions font en sorte que tu manges pas tel ou tel aliment. Donc, des fois aussi, ben, ça peut venir avec finalement une perte de poids parce que tu as éliminé plein de choses de ton alimentation. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'elle disait, c'est que réalisant qu'elle est en train de se diriger vers le trouble alimentaire, elle a enlevé l'étiquette complètement, tu sais. Elle n'est plus végé, elle n'est plus végane, elle n'est plus rien, là, comme elle mange, simplement. Puis ça, je trouve tellement que c'est de l'amour, comme, puis que ça devrait toujours être comme ça dans la vie. Puis tu sais, même justement par rapport à l'alimentation, comme tu pourrais être pesco, végétarien, puis tu peux être, tu sais, dans le fond, à quoi ça sert de t'étiqueter comme ça, puis de rentrer dans un cadre? Mange, tu sais, si, mettons, tu veux manger 95% du temps, pas de protéines animales, puis que 5% du temps, t'en manges, bien, ça regarde juste toi. Fait que t'as-tu besoin de dire « je suis presque végé » ou quelque chose comme ça? Non. Comme, juste, vis ta vie, mange ce que tu veux, selon ce qui te fait bien filer, puis le fait d'enlever l'étiquette, je trouve ça hyper pertinent. Puis d'ailleurs, c'est un peu mon avis par rapport au paléo. Donc, le paléo, est-ce que c'est une diète qui est mauvaise? Je pense pas. Tu sais, ce que j'aime beaucoup du paléo, dans le fond, c'est que tu enlèves beaucoup les aliments ultra transformés. Fait qu'à la base, le principe est bon. Fait que finalement, tu manges beaucoup de fruits, légumes, des protéines, tu sais. Mais en même temps, tu enlèves beaucoup d'aliments, tu sais, transformés, mais qui sont transformés pas nécessairement pour, en ayant un effet néfaste sur la santé, c'est-à-dire c'est pas du ultra transformé avec plein d'additifs ou d'édulcorants, quoi que ce soit, c'est vraiment des aliments qui sont légèrement transformés. Tu sais, en paléo, tu manges pas de blé, pas de produits laitiers, pas de légumineuses. Donc, tu te ramasses à avoir plein d'exclusions, de restrictions. Puis c'est là que ça devient moins intéressant. Donc, pourquoi avoir besoin, encore une fois, de se mettre une étiquette? Je te laisse réfléchir à tout ça et je passe au prochain segment. Donc, ça m'amène à vous parler d'un dernier concept que j'avais envie d'aborder dans ce podcast-ci, qui est la théorie du poids naturel. Parce qu'à un moment donné, Natacha raconte justement que, elle a évolué au fil du temps, des diètes, puis tout, donc paléo, vegan, Weight Watchers, in and out un petit peu. Puis finalement, à un moment donné, tu sais, elle avait vraiment l'impression qu'elle mangeait parfaitement. Dans le fond, qu'elle était vraiment sa coche, là, côté habitude alimentaire, qu'elle faisait pas de faux pas, puis tout. Puis là, elle perdait plus de poids. Fait que là, ça s'est mis à l'énerver parce que, justement, à un moment donné, ben, comme je disais tantôt, des fois, tu fais des efforts, t'as pas nécessairement les résultats en conséquence. Puis t'as pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est tannant des fois. On aime pas ça, là, faut avoir le contrôle sur certaines choses. Donc, c'est à ce moment-là, justement, qu'elle est rentrée dans l'excès et donc le trouble alimentaire. Fait que moi, ce que j'ai vu là-dedans, justement, c'est... tout ce qui est justement théorie du poids naturel que j'avais envie de vous parler. Donc, si vous n'êtes pas encore au fait, ce que c'est la théorie du poids naturel, c'est que c'est une théorie en fait qui est de plus en plus supportée par la littérature là, qui sous-tend que chaque individu aurait comme un poids naturel dans lequel son corps est en homéostasie, c'est-à-dire qu'il est en équilibre, pour lequel il sent bien, il n'y a pas d'impact négatif pour la santé, c'est comme un poids. Si tu cumules un peu les différents facteurs qui peuvent influencer ton poids, tu sais, finalement, ta génétique, ton background, tes habitudes de vie, puis tout, ben, c'est le poids comme qui fit pour toi, finalement. C'est ce que ça sous-tend aussi, cette théorie-là, c'est que si tu cherches à moduler ton poids, ben naturellement, quand tu arrêtes, par exemple, de faire des efforts, exemple, pour perdre du poids, lui, naturellement, il tend à retourner vers ce poids-là dans lequel il est bien puis il est en homéostasie. Puis, une petite métaphore qu'on aime souvent partager là, pour illustrer un peu ceci, c'est comme si, imagine-toi, mettons dans une piscine, puis il y a un ballon qui flotte sur l'eau. Fait que là, toi, si tu essaies de perdre du poids, mais que peut-être que présentement, justement, tu es à ton poids naturel, c'est comme si tu prenais le ballon, tu pesais dessus pour le rentrer sous l'eau. Fait que là, tu fais des efforts, tu diminues tes calories, tu augmentes ton activité physique, tu es dedans, là, ça va bien, tu es sous l'eau. Mais dès que tu relâches un peu la corde, boum, ça pop. puis ça revient au-dessus de l'eau. Donc ça, c'est le poids qui revient. Puis là, t'es là, crème. Quand je fais des efforts, je descends, mettons, à tel poids, puis dès que j'arrête un peu, là, tu sais, ça, c'est les clients qui nous disent, à moi, je regarde du pain, puis je prends du poids. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu ça. C'est que, naturellement, le poids, il va tendre à revenir à un poids X. Puis, à un moment donné, c'est un peu le constat qu'on se doit de faire dans le cas où, un peu comme ce que Natacha a vécu justement, dans le cas où tes habitudes de vie sont optimales, c'est-à-dire elles ne sont pas parfaites, hein? Parfaites égale pas optimales, jamais. tes habitudes de vie sont optimales, ce qui veut dire que tu as un équilibre de vie, tu te nourris majoritairement d'aliments sains, mais tu as aussi du plaisir dans l'alimentation. Tu peux prendre une coupe de vin, puis tu peux la fin de semaine avoir un repas entre amis, pas maintenant, mais un jour, je vous le promets, puis manger un petit peu plus, tu sais, puis ça, c'est des habitudes de vie qui sont saines, puis tu fais de l'activité physique, mettons, tu sais, ça va bien, là, t'as des bonnes habitudes, tu fais tout selon toi, ce qu'il faudrait pour perdre du poids, mais tu perds plus de poids. Fait que là, des fois, tu sais, là, les clients ou les gens qui ont un désir de perdre du poids sont comme, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus pour perdre du poids? Puis au moment où on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire de plus pour perdre du poids? Puis que la réponse à ça est comme, est pas équilibrée, est pas saine, est pas tenable, est pas durable. Bien là, c'est probablement que c'est rendu parce que tu es à ton poids, à toi, qui te convient, tu sais. Si tu as des saines habitudes de vie, tu manges globalement bien, tu bouges un peu, il n'y a plus de perte de poids, puis que tu te poses la question, qu'est-ce que je pourrais bien enlever d'autre, mettons, dans mon alimentation pour perdre du poids, puis que là, tu te dis, aïe, tu sais, mettons, si je coupe comme ma collation, je vais être affamée, si je diminue les calories au repas, voyons, je ne peux pas, bien, ça veut dire que tu n'as plus de marge de manœuvre. Si tu n'as plus de marge de manœuvre, ça veut dire que pour poursuivre en ce sens et avoir les résultats que tu désires, il faudrait que tu te mettes à être beaucoup plus sévère, beaucoup plus restrictif. Puis ça, ça ne tient pas. Ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas le faire pendant un temps X. Après, pouf, ton ballon, il va revenir à la surface de l'eau. Puis souvent, le ballon, quand il revient, ben il revient puis avec une prise de poids supplémentaire. Fait que là, tu vas rentrer in and out dans les diètes, finalement, puis dans le désir de contrôler ton poids. Fait que finalement, tu sais, je pense que ça, c'est le moment où elle a atteint ce cheminement-là qui était rendu là, tu sais. Puis encore là, elle dit, j'avais des habitudes de vie parfaites, puis je perdais pas de poids. Fait que d'après moi, tu sais, psychologiquement, elle était même rendue un petit peu trop loin, là. Mais je pense, moi, que c'est le moment où, justement, on doit un peu lâcher prise, puis travailler sur l'acceptation de soi. Puis, tu sais, le poids naturel, il y en a qui disent, voyons, je peux pas être à mon poids naturel, là, m'as-tu vu? Tu sais, les gens sont tellement critiques envers eux. Mais un poids naturel n'égale pas un poids qui va rencontrer les critères de l'IMC, mettons, là. Vraiment pas. Tu sais, comme je disais tantôt, ça dépend de ta génétique, ça dépend de ton histoire, comme, tu sais, si t'as passé ta vie au régime, c'est sûr que ton poids naturel va avoir été affecté à la hausse, t'as trop joué avec ton alimentation puis avec ton corps. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des prises de conscience à un moment donné qu'il faut avoir de comme, mon poids, finalement, c'est peut-être celui-là que, dans lequel mon corps est bien, puis qu'il n'y a pas d'affectation pour la santé aussi. Souvent, le poids naturel, là, je veux dire, quand je dis qu'il est en homéostasie, là, tu sais, dans bien des cas, il n'y aura pas nécessairement de problématiques, là, au niveau de la santé. Fait que, surtout au niveau des femmes, quand la masse adipeuse est de manière plus périphérique et non au niveau abdominal, bien souvent, tu sais, même si le poids est au-dessus de l'IMC, il n'y a pas d'affectation au niveau de la santé. Fait qu'à ce moment-là, c'est là, je pense qu'il faut commencer un cheminement qui va plus en termes d'acceptation et d'estime personnelle plutôt que justement se tourner vers encore plus couper, encore plus être restrictif, encore plus persévérer. Tu sais, c'est vraiment là, je pense, le set point là, qu'il faut se parler finalement. Tu sais, je sais que c'est pas évident, mais c'est tout à fait pertinent. Fait que voilà, écoute, c'est un épisode, je sais pas si vous allez aimer, je vais le voir un peu dans les stats, mais j'avais plein de choses à dire, comme à l'habitude, là. Moi c'est le genre d'épisode qui stimule en moi, plein de réactions finalement. Fait que je me suis dit que j'allais vous les partager. T'sais, si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ça, partagez-moi-les parce que c'est ça l'affaire avec le podcast, hein, c'est que c'est comme une discussion, une discussion à sens unique. Donc, tu sais, je suis vraiment ouverte justement à vous entendre sur le sujet. N'hésitez pas à m'écrire là, justement sur mes différentes plateformes. Puis évidemment, ben, je vous invite vraiment à l'écouter l'épisode en soi sur le podcast à Cynthia. Donc, pour les semaines à venir, j'ai vraiment des invités intéressants. Notamment, je vais parler de SIBO avec Marie-Ève Forget là, très bientôt. Marie-Ève, c'est la spécialiste là, des troubles digestifs dont que j'avais déjà reçu là, un petit peu plus tôt sur le podcast. J'ai également un épisode qui s'en vient avec Nicolas. C'est que j'ai aucune idée de son nom de famille, en fait. Sur Instagram, c'est Nicolas Nutrition Sportive, je pense. Mais on va jaser. Lui, justement, il a une approche qui est très health at every size. Puis, je pense qu'il est vegan ou végé. Puis, il est en nutrition sportive. Fait que c'est tout un combo. Je veux jaser de ça avec lui. Donc, je le reçois sous peu. Puis, une invitée aussi que j'ai vraiment hâte de recevoir. J'attends depuis longtemps. Écoute, elle est loadée, cette fille, en toute zénitude, parce qu'elle travaille dans la méditation, mais clairement un horaire chargé. Donc, je vais m'entretenir aussi avec Sophie Maffolini sur le lien entre la méditation et l'alimentation. Puis elle me disait d'ailleurs, petit coup, que c'était le sujet de son prochain livre. Donc, sur ça, je vous laisse, puis je vous reviens la semaine prochaine avec un épisode plus standard. Bonne journée! Merci énormément du temps que tu as passé avec moi. Je suis consciente qu'en 2020, le temps, c'est une ressource qui est limitée et tellement précieuse. Donc, si j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pendant quelques minutes, c'est tout un privilège pour moi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se dit au prochain podcast.